qui inquiète beaucoup l'Élysée. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement? Pire que magasin, la violence est encore montée d'un cran aujourd'hui.
La plus rebelle des radios.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes le mercredi 8 mars 2017. Il est 19h passé de 3 minutes et c'est l'heure du Canu Info.
Et donc le 8 mars, c'est bien aujourd'hui le 8 mars, et on commencera par voir ce que nous dit sur cette fameuse journée des femmes, ou journée pour le droit des femmes, le site Quartier Libre.
Ensuite, on ira en Calaisie avec des nouvelles de Calais.
On parlera de sécurité informatique.
Ensuite, on ira en Hongrie où on enferme les migrants.
Et puis, on écoutera le témoignage d'un bon flic.
Et on terminera ce Canu Info par l'agenda. Et on va commencer par une toute petite actu en bref, et on va parler des douanes de Lyon qui ont saisi quelques 300 kilos de shit. Jusque là, on s'en fout, camouflé dans 13 tonnes de pommes et de poires. Et là, ça commence à nous intéresser un peu. Et là, cette fois-ci, bah, plutôt que de les jeter ou de tout bouffer au point d'en faire une indigestion ou de faire de la confiture pour leurs potes, eh ben, ils ont tout filé à la banque alimentaire. Oh, comme c'est gentil! Et tellement gentil que Lyon Mag sous-titrait un geste symbolique fort que vient de réaliser la douane de Lyon. Bon, ça, pour vous, ça peut paraître un geste logique. Eh bien, visiblement, on n'était pas les seuls à avoir pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes d'actualité ce soir.
Alors, le 8 mars, vu par le site Quartier Libre, donc je vous le lis. La fierté des nôtres, c'est la journée de la lutte de toutes les femmes. Celles qui la ferment comme celles qui l'ouvrent. Celles qui se battent à ciel ouvert et celles qui se battent dans l'ombre, dans les petits chemins comme dans les grandes avenues. C'est quelques mots pour nous. Finalement, on s'en tape de cette journée encore plus de ce que les commerciaux ou certains décideurs en font. C'est l'occasion de se le dire. On a de quoi être fiers. Aux sœurs qui gardent les secrets plus lourds que leur corps, à celles qui se battent avec les leurs et parfois contre leurs propres démons, à celles qui ont décidé qu'on ne leur marcherait pas dessus, qu'on ne leur couperait plus la parole, qui gardent la tête haute, même quand il pleut de la haine, à celles qui donnent encore alors qu'on leur a tout pris, à celles que la douleur empêche de dormir, à celles qui perdent la foi, celles qui prennent du ferme, à celles qui portent le voile, à celles qui restent calmes quand la tempête fait rage, à celles qui ouvrent la voie, qui charbonnent dans l'ombre, qui se donnent à en perdre haleine, à celles qui n'ont pas les mots, mais dont les gestes sont là, à celles qui sortent leur rage, à celles qui la transforment en combat, à celles qui, d'une manière ou d'une autre, arrivent encore à partager. À nous qui resterons dignes, fiers, humbles, qui garderons à l'esprit que la honte, l'humiliation et le mépris sont inacceptables, qu'ils nous liguent les unes contre les autres. On lâche rien. Notre victoire, c'est le sourire des gamins et le nôtre.
Alors, le sourire des gamins, eh ben putain, il y a des endroits où les gamins ont pas tant de quoi sourire, comme par exemple des petits coins reculés de la terre, particulièrement sauvages, où il règne vraiment des sortes de lois vraiment infectes, comme par exemple Calais. À Calais...
Quoi ? Lâche ton micro.
À Calais, la guerre des douches à Calais, et cette semaine encore, la police a été présente devant les douches mises en place par le Secours catholique, qui contrôle et qui arrête les personnes qui s'y rendent ou qui en sortent. Alors généralement des mineurs, c'est pour ça que je disais les gamins, parce qu'il y a vraiment pas mal de mineurs qui ont été embarqués un peu à droite et à gauche au moment du démantèlement de la jungle, et puis que l'administration française, dans sa volonté de dégager les gens, mais surtout de ne pas s'occuper des mineurs isolés étrangers, les a envoyés un peu n'importe où sur le territoire, puis expertisés, considérés comme majeurs, et donc foutus à la rue sans s'occuper d'eux en aucune manière. Tout ça grâce à des tests osseux qui révèlent toujours que vous avez 12 ans, même que vous avez 25 ans, même quand vous en avez 4. Donc, alors, la variante de l'arrestation à la sortie des douches est sans doute le summum de l'humanité auquel on peut s'attendre à Calais. C'est que les mineurs sont parfois arrêtés propres, donc à la sortie. Retenus pendant quelques heures au commissariat, et puis remis à la rue, à une heure à pied pour retourner à Calais et pouvoir y dormir dehors. C'est bien de ça qu'on parle. Donc, résumé des derniers jours. Alors, mercredi dernier, un salarié de l'association, une journaliste de Libération et cette jeune arrêtée pendant quelques heures, ils se rendaient aux douches. Ah non, pardon, ça c'était mercredi 15 février. Mercredi 22 février, 14 personnes sont arrêtées, elles se rendaient aux douches. Vendredi 24 février, les 25 personnes qui se sont lavées ont dû donner leurs identités pour pouvoir accéder aux douches. Le 1er mars, alors que le ministre de l'Intérieur est en visite à Calais, contrôle et arrestation de 14 mineurs à la sortie des douches. L'escalade se poursuit cette semaine avec un arrêté municipal qui vise explicitement les distributions de nourriture aux exilés en les interdisant. Dans la zone industrielle des Dunes, où se trouvait notamment la fameuse jungle des Afghans en 2009, et à proximité de ce qui a été le plus grand bidonville de France, celui dont on vous a déjà parlé, reparlé et re-reparlé, celui qui a été rasé fin octobre, début novembre 2016. Il est vrai, nous dit le site Passeur d'Hospitalité, que la maire de Calais ne crève pas les écrans par la qualité de sa gestion municipale et que c'est la gestion des migrants qui lui a donné, notamment à partir de 2014, l'accès au plateau télé. C'est pour elle une question de survie politique que de continuer à exploiter le filon.
La sécurité informatique... Et en tout cas les moyens mis en œuvre par la police afin de surveiller la population, c'est des thèmes dont on parle régulièrement, mais rien ne vaut des petits rappels. Ce coup-ci, l'occasion de cette actualité, c'est Wikileaks qui la donne, qui dévoile aux Américains comment la CIA les espionne via leur matériel électronique et leur voiture. Et oui, car derrière les applications sexy, notre smartphone nous est devenu indispensable, et ce qui arrange bien ceux qui nous surveillent et nous fichent. Bon, c'est pas pour dire que c'est pas un truc moralisateur, mais c'est un peu un truc de réalité qui est derrière. Du coup, mieux vaut savoir comment on est fiché que plutôt faire le naïf ou la naïve en disant « Ah bon, ils peuvent nous surveiller ?» Oui, donc ils peuvent nous le surveiller, plein de gens l'ont déjà écrit, et là c'est Wikileaks pour le rappeler. Donc les documents ont été publiés hier, mardi 7 mars. Et donc, ces documents de la CIA portent sur les méthodes d'espionnage de l'agence de renseignement américaine, alors via les smartphones et téléconnectés qui peuvent être détournés et transformés en mouchards. Et apparemment, il y a certains des documents qui parlent aussi de toutes les informations que les nouvelles voitures donnent sur... des histoires de localisation, mais de kilomètres, de lieux, de tonnes de choses, dont se sert également la CIA quand ils sont intéressés par des personnes. Donc des milliers de documents décrivant les outils de la CIA pour pirater des serveurs informatiques, des ordinateurs, des smartphones et même des téléviseurs qui peuvent être transformés en micro-dissimulés. Donc le site précise qu'il ne s'agit que d'une première salve de documents et que ceci révèle que la CIA serait parvenue à passer outre au décryptage de messageries telles que WhatsApp, qui était un peu connu pour un peu sécuriser les appels, ou Telegram. Donc c'est deux grosses trucs de pour s'envoyer des messages qui apparemment marchent moins bien quand on est sous le viseur de la CIA. Et à utiliser notamment aussi le système Android pour récupérer les données ou intercepter des conversations. Donc il y a les Android, les smartphones, les systèmes Windows. La CIA a également visé les téléviseurs connectés Samsung qui peuvent être placés en faux mode off de façon à ce que l'utilisateur croit à tort
que qu'il ne regarde pas la télé.
Que lorsque sa télévision est éteinte, et ben hop, ils écoutent. L'appareil fonctionne comme un micro, surtout qu'en plus c'est trop bien parce que souvent ton téléviseur tu le mets devant ton salon dans lequel tu parles dans ton salon quoi, sur ton canapé tranquille, tu tchatches et voilà, et puis ils écoutent à ce moment là voilà, et du coup ils peuvent entrer dans la pièce et les envoient par internet à un serveur de la CIA. C'est super. Donc WikiLeaks indique également que le service de piratage de la CIA compte plus de 5000 membres, c'est pas mal hein, et dont ceux-là qui ont produit des milliers de logiciels pirates. Et ces outils ultra secrets ont circulé parmi des anciens prestataires et hackers ayant travaillé pour le gouvernement. Et donc l'un d'entre eux en a fourni des fragments à WikiLeaks, d'où ces informations. Bon, donc il garde ses sources, mais voilà. Et de son côté, la CIA a émis un communiqué dans lequel elle décline tout commentaire sur les prétendus documents, bien évidemment. Donc cette info, parce que j'ai mentionné tout à l'heure le site, donc je parle du site Le Courrier International dans lequel j'ai recueilli ces informations.
Et on va du côté de la Hongrie où le Parlement du pays vient de réintroduire l'enfermement de tous les migrants. Alors cette mesure a été supprimée en 2013 sous la pression de l'Union européenne et du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Alors cette mesure a pour effet l'enfermement systématique et immédiat de tout nouveau migrant ainsi que les demandeurs d'asile déjà hébergés sur le territoire hongrois. Ils sont actuellement 586. Courageux, hein, faut le souligner quand même, vu l'ambiance dans le pays. Les migrants seront enfermés dans des containers aménagés aux frontières serbes et croates. Ceux pour qui leur demande d'asile sera positive se verront libérés, les autres expulsés, bien évidemment, c'est le but de la manœuvre. En 2016, 29 432 demandes d'asile avaient été déposées, 425 l'ont obtenu. Chiffre à nuancer, sur ces presque 30 000 demandes d'asile, un bon nombre ont déposé une demande pour se protéger des contrôles, mais ont poursuivi leur route vers l'Europe de l'Est. En gros, voilà, les gens sont arrivés par la Hongrie, ont déposé une demande. Alors soit c'était stratégique, soit ils se sont fait choper à ce moment-là, du coup ils ont vite déposé une demande pour pas se faire expulser, et voilà. Soit ils se sont dit, ah peut-être je vais essayer la Hongrie, puis ils sont restés une semaine, on fait, oh là, finalement on va peut-être se barrer, hein, parce que Viktor Orban ça a pas trop l'air d'être notre pote. Voilà, donc voilà, en tout cas actuellement il y a 586 demandeurs d'asile, pardon, en Hongrie, hein, donc on sent quand même Viktor Orban qui en fait des tonnes et des tonnes politiquement pour 586 personnes. Ouais, c'est ça. Alors cette nouvelle loi a tout de même été adoptée par 138 voix, 6 contre et 22 abstentions. Alors les abstentions quand même, franchement, c'est les pires lâches du monde. Pour rappel, la Hongrie de Viktor Orban est en train de construire un deuxième mur à sa frontière serbe. Ils en avaient déjà construit un premier, c'était notamment en Hongrie, mais c'était vraiment pas les seuls. Hein. On avait vu les images là de quand il y avait eu pas mal de migrants qui ont tenté de rejoindre l'Europe parce qu'ils fuyaient des pays où c'était la merde. Et où, du coup, la Hongrie là, avait construit un mur et voilà, on voyait les gens errer en attendant de trouver une faille dans le mur, mais voilà.
Et alors voilà, ben comme j'ai pas eu beaucoup de temps de préparer ce Canu Info, je vous propose de lire encore un bout d'un article de Quartier Libre encore, parce que j'aime bien ce site et puis ça vaut le coup d'en lire parce que C'est pas mal. Et cette fois-ci, comme c'est bien intéressant, bah, ça parle de la police. Et notamment, vous voyez, de ce témoignage qu'il y a eu il y a quelques jours dans les médias. En tout cas, moi, j'ai pas mal, j'en ai entendu parler, de cet article dans Mediapart de Mathieu Suc, qui a publié le témoignage d'un policier du commissariat d'Aulnay-sous-Bois. Je sais pas, vous l'aviez lu, ce truc, bah, du coup, d'un bon flic. Alors, lui, il dit, j'ai honte de travailler à Aulnay. Il attaque d'emblée le... j'ai honte de travailler à Aulnay. Attaque d'emblée le policier républicain déniché par Mediapart et qui masque son identité sous le pseudo de Serge. Donc, ce témoignage décrit le fonctionnement des forces de police à Aulnay. Donc, le Sergio, bon flic républicain et démocrate, trouvé par ce journaliste, décrit un groupe accro à l'adrénaline, à la castagne. Je cite, ils aiment se battre, casser des gens. C'était toujours les premiers à se ruer dans les cellules. Lorsqu'un gardé a vu péter un plomb ou se rebellait, l'un d'eux, un brigadier, était particulièrement violent. Je l'ai vu avoir des gestes déplacés au poste, menacer des hommes menottés au banc. Toi, on va t'éclater. Et à chaque fois que les jeunes se plaignaient, c'était cette équipe-là. Donc le reste de cette enquête est à l'avenant. Un témoignage de l'intérieur d'un flic qui condamne les dérives racistes et violentes de ses collègues et en appelle aux victimes des violences policières pour aider les bons flics à faire le ménage dans la police. On apprend ainsi dans l'article de la bouche du bon flic Sergio que tous les mois, selon lui, au moins un gardé à vue serait en mesure de dénoncer des pratiques illégales. Il pense que cela ne sert à rien de porter plainte contre la police auprès d'un policier. Serge nous implore, il faut leur dire peut-être que la première fois cela n'aboutira pas, ni même la seconde, n'empêche que les signalements figureront dans les dossiers des collègues. Cela finira par alerter la hiérarchie. Des enquêtes seront menées, les jeunes doivent nous aider à faire le ménage. Le hic de cet appel et de cet article, c'est que notre bon policier républicain parle masqué et sous un faux nom de peur des représailles de ses collègues et de sa hiérarchie. En clair, il demande aux victimes des violences policières d'avoir le courage que lui et ses collègues bons flics n'ont pas. Bon, d'accord, ce témoignage destiné à nous faire croire qu'il existe une police républicaine nous montre où se situe cette police républicaine, cachée, masquée, sous un pseudo et nous demandant à nous de faire le ménage dans ses rangs. C'est comme si un maton demandait à un prisonnier de l'aider à améliorer ses conditions de détention ou de travailler depuis le fond de sa cellule. De qui se moque-t-on quand même ? Au quartier, tout le monde sait pourquoi Adama, Zied et Bouna couraient. Ils couraient parce que la police française est majoritairement raciste, corporatiste et violente. Le témoignage clandou du bon policier Sergio, qui devait nous aider à croire en la police, nous confirme simplement cette réalité. Mais ceux qui, dans la police, n'approuvent pas ces violences quotidiennes et cette orga généralisée, ferment leur gueule et longent les murs pour ne pas affronter le racisme et la violence de leurs collègues. Cet article est un avertissement pour ceux et celles qui naïvement croient encore que des bons flics viendront les protéger des mauvais flics qui seraient une minorité au sein de la maison police républicaine. Les bons flics, ils rampent ou regardent ailleurs devant les violences de leurs collègues. Et le soir, quand ils rentrent chez eux, ils sont écœurés, dégoûtés par ce qui s'est passé, nous dit le bon Sergio. La banalité du mal est lâcheté de ceux qui regardent sans bouger. Soyons clairs, ce n'est pas aux habitants des quartiers populaires et aux familles des victimes des violences policières d'absoudre la culpabilité de ces supposés bons flics. La nécessité qu'ont certains de trouver des policiers républicains pour ne pas avoir à condamner les mécanismes structurels qui font de la police française une police raciste et violente, rappelle l'intercession biblique d'Abraham avec son Dieu pour sauver les villes de Sodome et Gomorre, qu'il médite bien cette parole biblique, je cite, et ne pardonnes-tu pas à la cité pour les 50 justes qui sont dans son sein, demande Abraham à son Dieu. S'ensuit une négation entre Dieu et Abraham qui s'arrête à... Une négociation. Voilà, donc il y a Abraham et Dieu qui parlent, quoi. Oh là là, tu veux nous raconter la suite parce
Ah, mais parce que là, à ce moment-là, c'est
ouais,
donc,
vas-y.
On reprend, je veux dire vite fait, hein. Mais Dieu a décidé d'aller exploser les villes de Sodome et Gomorre. Sur son chemin, il passe faire coucou à Abraham, qui est son pote et son prophète. Et Abraham lui demande qu'est-ce que tu vas foutre. Dieu, il dit, bon, bah, je vais exploser ces deux villes parce que c'est des villes pécheresses. Et Abraham, il dit, ah ouais, mais quand même, si ça se trouve, il y a des gens qui sont pas pêcheurs dedans, comme peut-être dans la police. Et Dieu, il dit, bah ouais, mais bon, il y aura quand même beaucoup de pêcheurs, je vais tout niquer. Abraham, il dit, ouais, peut-être il y en a 50 qui sont bons, si c'est ça, s'il y en a 50, allez, tu niques pas les villes. Et Dieu, il dit, bon, pour l'amour de toi, s'il y en a 50, je nique pas les villes. Et Abraham, il dit, ouais, peut-être il y en a 40 quand même. Et comme ça, il descend, et il arrive à 5. Et Dieu, il négocie jusqu'à 5. Mais il dit, non, mais en vrai, s'il y en a moins de 5, c'est foutu, je nique tout. Et bon, il va à Sodome et Gomorre, et il en trouve 4.
Et donc, on ne fait pas du bien avec du mal, nous enseigne cette fable divine. Il ne sortira rien de bon des commissariats d'aujourd'hui.
C'est ça, c'est que si Dieu était allé nettoyer les commissariats, eh ben on aurait eu beau négocier avec lui pour dire non, mais quand même, si tu trouves 10% de bons flics, allez, vas-y, t'exploses pas les commissariats. Et là, vraisemblablement, Dieu aurait explosé les commissariats.
Donc certains de bonne foi face aux violences policières choisissent d'invoquer la bonne police face à la mauvaise, espérant que Sergio et ses comparses bons flics prennent enfin un jour leur courage à deux mains. Il faudra bien pourtant un jour faire le bilan de ces invocations. Combien de bons policiers ont témoigné lors d'un procès contre les méchants ces 20 dernières années ? Zéro. Est-ce que le bon Sergio est allé voir le juge d'instruction en charge du viol de Théo pour lui dire les antécédents de ses collègues violeurs ? Non. Le brave homme préfère un témoignage anonyme dans Mediapart pour soulager sa conscience. Il n'y a aucun courage ou sursaut démocratique à attendre du corps policier français. Voilà ce que nous enseigne le témoignage de Sergio, le bon flic. Et ben maintenant, on va parler de Palestine, dans les sujets réjouissants de l'actualité quotidienne, on peut dire. Du coup, c'est parce qu'il va y avoir une soirée, le lundi 13 mars 2017 à 17h, donc organisée par le collectif de soutien à Palestine 69. Et donc ça sera à l'université Lyon 2, 18 quai Claude Bernard, sur le campus Berge du Rhône. Et je sais, j'arrive pas à voir le nom du bâtiment, c'est effacé sur mon PDF. Donc juste je vous lis l'appel parce que ça fait un résumé de la situation actuelle, c'est assez intéressant. La légalisation croissante des colonies, leur extension sans limite, la non-reconnaissance de frontières, le non-respect des traités internationaux semblent démontrer une volonté d'annexion de la Palestine. Les propos incohérents du président Trump ne rassurent pas. Les autorités françaises, président et ministre des Affaires étrangères, appellent les autorités israéliennes à respecter le droit international et ont organisé une conférence internationale dans ce sens. Les institutions universitaires françaises doivent de la même façon rappeler le respect de ce droit. Ce rappel doit être solennel et explicité dans les relations entretenues avec les partenaires universitaires israéliens. C'est chaud, quoi. Donc, comment il va parvenir ? Donc, il va y avoir un film d'introduction au débat, Roadmap to Apartheid, de 1h35. Il y aura un débat. Donc, c'est le lundi 13 mars à 17h. Je pense que ça va être un débat bien intéressant.
Redis à quel endroit c'est, à part la salle ?
C'est à l'université Lyon 2, 18 quai Claude Bernard. Donc, c'est tram T1, quai Claude Bernard ou rue de l'université. Et sinon, pour petite info rapide, il va y avoir la fête du livre de Bron. Et ça sera le vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 mars.
Et puis on dirait que... Oh, 19h26, c'est bien, écoutez. Nous vous offrons maintenant 34 minutes de musique Radio Canu. De musique de très fameuses bandes continues, en attendant la formidable émission Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. À mercredi prochain.
Merci de nous avoir écoutés.
C'est pas un livre, c'est pas un 10 de ton Mozart. C'est pas une chaînette. C'est pas une gourmette. C'est pour les jeunes.